Le journal Loïc Barrière. Trois membres d'un groupe djihadiste tués par l'armée tunisienne dans la région de Kasserine. En Afghanistan, au moins 18 morts dans un attentat contre une mosquée à Herat. En France, la rentrée scolaire, marquée par un manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Entretien avec Sonia Ae-Einou, vice-présidente de l'UNAPEI. Un mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de l'imam Hassan Ikhwissen. Le procureur national antiterroriste évoque une menace croissante contre la France, une menace venant notamment de la zone irako-syrienne. Enfin, entretien avec le président d'Amnesty International France, Jean-Claude Samouyé, sur la situation des Ouïghours après le rapport accablant publié par l'ONU. L'armée tunisienne annonce avoir tué trois djihadistes. Ils étaient membres du groupe Soldats du Califat, affiliés à l'organisation État islamique. L'opération de l'armée a eu lieu dans la zone du mont Saloum, près de Kasserine, c'est près de la frontière avec l'Algérie. En Afghanistan, au moins 18 morts dans un attentat contre la mosquée Gazarga à Herat. Il s'agit d'une des plus grandes mosquées de cette ville de l'ouest du pays. L'explosion très importante a eu lieu durant la prière du vendredi. Parmi les victimes, l'imam, qui était un homme très influent, début juillet, cet homme avait déclaré que toute personne qui tenterait de renverser le régime taliban devrait être décapitée. La rentrée scolaire hier en France, une rentrée marquée notamment par un manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Je vous propose d'écouter Sonia Ae-Einou, vice-présidente de l'UNAPEI, fédération regroupant des associations de personnes en situation de handicap.
Nous faisons un état des lieux comme quoi la situation reste inchangée parce que le sujet des parcours de scolarisation reste un sujet qui est récurrent tout au long de l'année parce que vous avez des élèves en situation de handicap qui sont peu scolarisés ou mal scolarisés ou déscolarisés. J'ai eu encore ce matin l'appel d'une maman en Loire-Atlantique qui était en attente de notification de la maison départementale du handicap, qui prescrit en tout cas les accompagnements nécessaires à la scolarisation, et qui s'est vue recevoir un refus d'accompagnement par un accompagnant éducatif des élèves en situation de handicap, et qui se retrouve donc en grande difficulté parce qu'elle ne peut pas travailler et parce qu'elle reste avec sa fille sur les bras, à la maison, à domicile.
Ce sont des cas concrets qui remontent.
Oui, ce sont des cas concrets qui remontent. Alors, la problématique des AESH, c'est une problématique, c'est une modalité de scolarisation parmi d'autres. Nous avons, nous, au niveau de l'UNAPEI, au sein des associations, des élèves en situation de handicap qui ont besoin d'autres modalités de scolarisation pluridisciplinaires et beaucoup plus renforcées, pour lesquelles il y a aussi des problématiques, notamment des attentes de place d'entrée dans un dispositif spécialisé, avec des équipes spécialisées, donc dans des établissements médico-sociaux. Et ils se retrouvent aussi en grande difficulté parce qu'on les éloigne du parcours de la scolarisation et on les éloigne de leur autonomie et de leurs apprentissages à la vie sociale.
Et comment avez-vous accueilli le cri d'alarme de la défenseure des droits, Claire Hédon, sur cette situation ?
Sur cette situation, Claire Hédon a émis un rapport très très circonstancié qui appuie en tout cas nos demandes et nos alertes depuis quelques années. Elle met bien en avant les différentes difficultés qui sont rencontrées par rapport au décalage qu'il y a entre les modalités de scolarisation qui sont effectives sur les territoires et dans les établissements, qu'ils soient spécialisés ou pas, quel que soit le lieu d'apprentissage, et l'inadéquation avec les annonces qui sont faites et les multiples dispositifs qui sont montés et construits par les pouvoirs publics.
Que dites-vous aujourd'hui à un parent d'élève dont l'enfant n'a pas pu faire sa rentrée parce qu'il n'a pas d'AESH, d'accompagnant d'élèves en situation de handicap ?
Alors la première chose à faire, ce qu'on dit aux parents aussi, c'est de ne pas lâcher et de continuer à avoir des droits de recours, parce que nous sommes dans un pays de droit. Ils ont le droit d'alerter sur leur situation, ils ont le droit de demander à ce que cette situation soit résolue au plus rapidement, déjà pour la santé et l'équilibre de leur enfant, et ils ont droit de téléphoner. Alors il y a un numéro qui est mis en place par le gouvernement, de contacter leur inspecteur de l'éducation nationale, leur enseignant référent. Ce sont les premières voies de recours et les premières personnes de proximité qu'ils peuvent contacter. Et ils peuvent aller sur la plateforme marentrée.org pour expliquer la situation qu'ils rencontrent, pour que nous aussi, on puisse avoir des illustrations de tout ce qu'on défend et d'alerter le gouvernement par rapport à la prise en compte de cette situation-là.
Et pourquoi aujourd'hui la France manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap ?
Moi, je te poserai la question différemment. Pourquoi les élèves en situation de handicap, tous les élèves en situation de handicap, n'ont pas les modalités de scolarisation qui leur permettent de rentrer dans les apprentissages et de pouvoir mener leur parcours de scolarisation à leur terme pour pouvoir grandir et aller dans la vie sociale plus tard ?
Sonia Ahé-Einou, vice-présidente de l'UNA PEI, au micro de François-Xavier de Calonne. Comme durant la crise sanitaire, un conseil de défense s'est tenu à l'Élysée pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité. Une réunion à huis clos où ont été envisagés différents scénarios pour éviter à la France une pénurie et réaliser des économies d'énergie. Selon Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, la réussite du plan de sobriété permettra d'éviter les mesures contraignantes. Le procureur national antiterroriste affirme qu'on ne peut exclure une action en France. Sur BFM TV, Jean-François Ricard met en garde contre une menace extérieure en provenance notamment de la zone irako-syrienne, une menace croissante selon lui. Il précise que des personnes ayant combattu en zone irako-syrienne parviennent à regagner l'Europe par leurs propres moyens. Certaines personnes ont déjà rejoint l'Allemagne, une déclaration qui intervient avant le procès de l'attentat de Nice qui doit s'ouvrir lundi prochain. L'imam Hassan Iqwisen est désormais visé par un mandat d'arrêt européen délivré par un juge d'instruction de Valenciennes, un mandat d'arrêt lancé pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Le prédicateur de nationalité marocaine peut être expulsé de France selon un avis rendu par le Conseil d'État, mais il n'a toujours pas été retrouvé par la police. L'ONU accuse la Chine de possibles crimes contre l'humanité, contre les Ouïghours. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme fait état de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles. La réaction du président d'Amnesty International France, Jean-Claude Samouillet.
Nous attendions la publication de ce rapport, hein, qui date de 2021, donc il n'est pas récent. Et depuis ces derniers mois, nous ne cessions de réclamer la publication de ce rapport. Et nous sommes satisfaits, effectivement, que dans les dernières minutes, finalement, de son mandat, Michelle Bachelet, qui est la haute commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, ait publié ce rapport. Il n'y a pas de choses vraiment nouvelles dans ce rapport, mais le fait qu'il soit publié par l'ONU permet de casser encore un peu plus, de fissurer encore un peu plus le mur de déni des autorités chinoises sur les crimes contre l'humanité commis envers les populations ouïghours ou tadjiks ou ouzbeks, enfin les minorités musulmanes qui habitent dans l'ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang.
Et justement, quel impact peut avoir un tel rapport sur cette situation ?
Eh bien, nous espérons que l'ONU ne va pas rester là. Nous demandons à ce qu'il y ait la création d'un mécanisme d'observation pérenne, hein, qui relate régulièrement ce qui se passe dans le Xinjiang, qui puisse avoir les coups des franges pour enquêter, pour rencontrer les personnes qu'ils souhaitent rencontrer, pour visiter les centres de rétention que nous dénonçons. Hein, nous considérons que ce sont des centres d'emprisonnement où la torture est systématique, où il y a les gens sont affamés, manque d'eau, manque d'aération, ils sont soumis à des froids intenses. Donc nous voudrions qu'il y ait un mécanisme d'information pérenne pour relater ce qui se passe réellement dans le Xinjiang.
Estimez-vous qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de la part de la communauté internationale ?
ça va y participer. Hein, les rapports des ONG, dont celui d'Amnesty International de juin 2021, ont permis de lever le voile. Il y a quatre parlements qui ont pris des résolutions en ce sens. Hein, le Parlement de la France, l'Assemblée nationale française en janvier 2022, qui avait suivi le Parlement canadien, le Parlement anglais, le Parlement des Pays-Bas. Donc petit à petit, se fait jour, la communauté internationale se rend compte de plus en plus ce qui se passe et ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut des gestes forts pour arrêter les atrocités qui sont commises dans cette région.
Vous l'avez souligné, vous avez enquêté sur la situation, notamment des Ouïghours. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous faire part de ce dont ils sont victimes aujourd'hui?
Alors nous, déjà, ce que nous avons documenté dans notre rapport, et puis dans plein de communiqués de presse et plein de rapports, enfin de petits rapports, disons, c'est que déjà, pour nous, la population musulmane dans le Xinjiang est la population la plus surveillée au monde. Il y a des caméras de partout, il y a des tests biométriques, il y a des checkpoints à tous les coins de rue, il y a des visites, les agents de l'État peuvent s'inviter dans une famille pendant 2 ou 3 jours pour vérifier qu'il n'y a pas de Coran, qu'il n'y a pas de papier de prière, qu'il n'y a pas de signe religieux, parce que ça, c'est vraiment la volonté des autorités chinoises, c'est d'éradiquer toute la religion musulmane et toute la culture ouïghour et ouzbek, enfin de toutes les minorités musulmanes, d'éradiquer cette culture, d'éradiquer cette langue pour qu'il y ait une Chine homogène, laïque et qui vive sur les préceptes du Parti communiste chinois. Donc ça, c'est la volonté d'éradiquer la culture ouïghour. Et si vous avez des contacts avec des personnels étrangers, si vous avez dans votre smartphone des applications qui vous permettent de communiquer avec l'étranger, si vous avez une barbe un peu trop longue, si vous avez un vêtement qui ne correspond pas à ce que souhaite le parti, vous pouvez vous retrouver dans des centres de rééducation, des centres de déradicalisation, des centres de formation, comme les appellent les autorités chinoises, et qui en réalité sont des prisons. Et les premiers temps, vous y passez peut-être une année, et dans les premiers temps, vous êtes soumis à rester dans des positions inconfortables. Si vous parlez à votre voisin, vous êtes puni. Si vous parlez en ouïghour, vous êtes puni. Vous recevez des décharges électriques, vous êtes affamé, vous êtes dans le froid, vous êtes entravé dans la chaise du tigre, qui est vraiment insupportable, hein, qui est dans une position insupportable. Nous, on a le témoignage d'une personne qui est restée 72 heures dans cette chaise du tigre et qui en est décédée, hein, au milieu de ses compagnons. Donc les conditions sont atroces. Et tout au long de cet internement, il y a un bourrage de crâne, il y a un lavage de cerveau et on inculque aux personnes l'idéologie communiste, les chants patriotiques. On leur apprend à vénérer Xi Jinping et les élites du régime chinois et on leur apprend à tous les méfaits liés à l'islam. Enfin, les rééduque complètement. Ce sont du lavage du cerveau à grande échelle.
Et au sein d'Amnesty International, vous avez choisi de mettre en lumière le sort de victimes comme cet homme, Mamat, qui a été enfermé dans un camp et dont les proches depuis n'ont plus de nouvelles.
Alors nous avons deux types d'actions. Il y a du plaidoyer donc auprès de l'ONU, auprès des gouvernements pour qu'ils fassent pression sur les autorités chinoises. Ça, c'est notre premier acte d'action. Et puis nous avons également, nous prenons la défense de prisonniers ou de personnes qui ont disparu, hein, parce que Mamat a disparu et nous occupons effectivement de recueillir le maximum d'informations sur son sort, sur sa vie, ce qui est devenu, et nous espérons qu'un jour on retrouve sa trace et qu'un jour il soit libéré et qu'il puisse retrouver sa famille, mais c'est un travail de longue haleine et c'est très très compliqué.
Et est-ce que justement l'on peut connaître le nombre de personnes qui disparaissent, qui sont enfermées dans ces camps?
Alors les personnes qui disparaissent, je ne saurais pas vous donner le nom, mais beaucoup d'ONG et de journalistes estiment qu'il y a plus d'un million de personnes qui sont enfermées dans les camps, dans le Xinjiang. Il y a des centaines de camps. Par des photos satellites, on a pu repérer des constructions de camps et leur implantation. Donc le chiffre qui est annoncé, c'est plus d'un million de personnes qui seraient incarcérées dans ces camps. Sur une population de 11 millions, donc c'est considérable.
Et cela fait plusieurs années que cette population est victime de cette répression, mais ça a été mis en lumière plutôt récemment.
Alors, il y a eu des, des attentats, il y a eu par des personnes radicalisées dans les années 2014, et c'est depuis 2016 en fait que des mesures draconiennes ont été prises par les autorités chinoises, et c'est depuis 2016-2017 que petit à petit sont révélées les atrocités commises, et c'est vraiment en 2019-2020 et puis ces derniers mois qu'on arrive à documenter que différentes ONG, que différents journalistes, que différents hommes politiques arrivent à documenter, avoir une vision assez précise et assez exhaustive de ce qui se passe dans la région.
Le président d'Amnesty International France, Jean-Claude Samouyer, il répondait à François-Xavier de Calonne. En Dordogne, la mise en examen d'un homme pour homicide volontaire par conjoint, il a été placé en détention provisoire. Il s'agit du mari d'une femme tuée mardi d'une vingtaine de coups de couteau à Boulazac. Une avancée scientifique pour les personnes porteuses de trisomie 21. Une thérapie testée sur 7 patients a pu améliorer certaines de leurs fonctions cognitives. Des résultats jugés prometteurs, mais ils doivent encore être confirmés. Une expérience conduite au centre hospitalier universitaire vaudois est publiée dans la revue Science. Un nouveau virus en Argentine, il s'agit d'une pneumonie sévère d'origine inconnue qui a fait 3 morts. Le virus a été localisé à Tucumán. Selon les premiers examens, il ne s'agit ni du Covid ni de la grippe. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Akli Melouli, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, membre du Conseil national du Parti socialiste, une émission rediffusée dimanche à 17h. Cette édition est terminée, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.